RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Le Super Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois. Mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Ouais, c'est bon, on peut y aller. Avec François Malardo et avec Ali Benarbia, on attend le top. En fait, je t'explique, toi qui nous écoutes ou qui nous regardes sur BFM Sport, en fait, on est en télé et en radio en simultané. Parfois, il y a un décalage. Donc, c'est pour ça que des fois, t'attends, tu dis, ouais, qu'est-ce qu'ils foutent et tout, les mecs.
Et bon, c'est Nicolas, hein, la pédagogie est très forte.
Écoute,
fort.
On est là aussi.
Très,
pour, très fort. On, là pour, on en apprend tous les jours, François Malardo.
Bien mérité ton salaire.
On donne envie de faire le métier de journaliste.
C'est vrai?
Ouais.
Ah, putain, en ce moment, pourtant, c'est, je te jure, on n'a pas la cote. Hein. Ah, on n'a pas la cote.
C'est pas qu'en ce moment, les amis.
Non, mais là,
vous n'avez pas la.
Allez!
Par qui? Allez, je peux dire que moi quand je rencontre mes étudiants, les journalistes.
Ah, tu donnes des cours, toi?
Vous n'avez pas la cote du tout.
Tu donnes des cours?
Je donne des cours chez PPA, Paris Pôle Alternance, à Paris. Et je les salue d'ailleurs s'il y a quelques étudiants, étudiantes aussi, qui nous écoutent ce soir. Et qui nous voient.
Ouais, bah, si ça leur plaît pas, journaliste, ils feront plombier ou électricien.
Et tu sais quoi, je pense que ça paye mieux et que c'est moins précaire dans certains cas. Je te l'annonce. Hein. Alors là, je te le dis, mon gars.
Allez,
toi qui nous écoutes, journaliste en l'air.
Tu travailles dans le foot.
Attends, tu sais ce que tu dis.
Attends,
moi, il y a des électriciens et des plombiers dans ma famille.
Non, mais ce qu'il dit, ça paye pas bien. Mais on a vu qu'il y en a qui sont un peu agents, un peu.
Non, je suis pas.
Non. Il y en a qui se pensent futurs agents.
Non, c'est autre chose. Il y en a qui le font aussi.
Exactement, oui.
C'est pas parce que je mets en connexion un mec avec qui je m'entends bien, avec un autre mec qui je m'entends bien, et il se trouve que s'ils travaillent ensemble, ils peuvent se faire un truc que moi je suis dans.
Mais
le.
Mais comment tu fais pour t'acheter autant de nœuds papes? Je me pose la question.
Tu savais combien coûte cela?
Ça coûte les nœuds papes.
Mais cela, je les paye 2€ sur Wish, pour ne pas le citer. Bien entendu. C'est un truc qui s'est fabriqué en Chine.
Non, il y a quelques journalistes qui se reconvertissent de manière assez hasardeuse, comme DIRCOM, directeur de la communication, assistant de communication, attaché.
Ça dure pas longtemps.
Ça peut leur apporter quelques sous.
Je vous rappelle les résultats de cette 29e journée de Ligue 1, ceux d'aujourd'hui. Un partout entre Lille et Montpellier, envahissement de terrain des supporters lillois à l'issue de ce match. Il y a eu un partout également entre Rennes et Saint-Etienne, 0-0 entre Bordeaux et Angers, Nantes a battu 3-1-0, un partout entre Dijon et Amiens, il n'y a pas eu beaucoup de buts. Il y en a eu beaucoup, c'est cet après-midi, entre le Paris Saint-Germain et Metz, le PSG qui est leader avec 77 points, Monaco est deuxième avec 63 points, la Marseille est la troisième place qui jouera demain face à Toulouse, match à suivre sur RMC bien sûr avec 56 points, Lyon est à 5 points des Marseillais à la quatrième place, Nantes ce soir est cinquième avec un point d'avance sur Rennes et avec 2 points d'avance sur Montpellier. Dans le bas du classement, on retrouve Metz dernier avec 20 points, avant-dernier Lille 28 points, égalité avec 3 qui est barragiste, 3 qui a un point de retard sur Toulouse qui jouera donc demain face à l'OM, et Amiens est 16e avec 30 points. Le PSG a donc battu le FC Metz 5-0 cet après-midi. Meunier, Nkunku a mis deux fois, Mbappé ont marqué pour le Paris Saint-Germain tout comme Thiago Silva. Match qui suit donc l'élimination du Paris Saint-Germain du 8e de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Le PSG qui a pas mal fait tourner, il y a beaucoup de joueurs qui étaient absents notamment pour ce match. Qu'est-ce que vous retenez de cette victoire du Paris Saint-Germain? Est-ce qu'elle compte vraiment ou pas?
Oui, si elle compte. Faut arrêter de dire qu'une grande équipe, sous prétexte qu'elle est terminée, que la saison est terminée, même si elles ont 10, 11 ou 2 points d'avance. Un grand club se doit, et je le dis souvent, de gagner tous ses matchs et d'être concentré à 100% à n'importe quel moment avec l'effectif qui le compose. Sous prétexte qu'il y a des joueurs que tu es éliminé et ne jouent pas là, automatiquement les autres doivent se montrer et montrer qu'ils ont les capacités. Et c'est ça un grand club. Et on oublie souvent, sous prétexte que la Ligue 1, pour le Paris Saint-Germain, il y a un décalage, qui doivent de temps en temps, je dis pas me baisser le pied. Non, ils doivent être tout le temps à fond. C'est ce que le PSG, s'ils sont tout le temps à fond, leur permettra, à un moment ou à un autre, de passer le cap à Champions League.
Sauf qu'ils sont pas à fond cet après-midi. Ils font le travail. Ils sont pas à fond.
Ah, je les ai vus. Non, mais quand tu domines vraiment.
Les premières minutes.
Oui,
Metz, allez, deux. Ils tapent la barre, ils ont des occasions. C'est
oui,
Metz, hein.
Non, deux occasions. Mais toutes les occasions, je veux dire,
non, ils sont pas à fond, on est d'accord.
Non, mais attends,
fond, Paris,
même le dernier de la Liga. Non, le dernier de la Liga met la pression à Barcelone, met la pression au Real Madrid sur 5-10 minutes et après ils en prennent 3 ou 4.
Oui, non, mais Ali, François. On peut, sans faire un immense effort d'imagination, se dire que si le sort avait été favorable, Ali, au PSG sur la scène européenne, tu aurais senti un Metz se faire rouler dessus, peut-être du début à la fin. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis sur le fait qu'un grand club. C'est le score au tableau d'affichage. Ouais. Un grand club doit prouver qu'il est grand tout le temps.
Oui.
Cet après-midi, j'ai trouvé que ce PSG qui sort quand même d'une défaite qui s'ajoute aux autres sur la scène européenne depuis maintenant un peu trop d'années, a fait le travail. Voilà. Ni plus, ni moins. Le premier contre le dernier.
C'est-à-dire que si.
5-0, ça aurait fait plus.
François, s'ils font le travail, ils gagnent 2-0. Ils ont fait le travail, ils ont géré, c'est une chose. Là, ils mettent 5-0, mais ils doivent rater. Vraiment 4-5 face à face.
Mais c'est un écart. C'est un écart qu'on a constaté. Non, mais
toi, tu veux dire, on va pas dire, on va pas redire. C'est ça que tu veux dire.
Non, mais. Je comprends qu'il soit pas à fond. On va pas redire ici que le Paris Saint-Germain, au niveau domestique, domine ce championnat de la tête et des épaules et les coupes. Et est-ce que c'est exceptionnel de le faire? C'est très bien de le faire parce que les victoires, il faut aller les chercher.
C'était pas tout le temps.
C'était pas
François,
tout le temps.
Les saisons dernières.
C'était pas tout. Non, mais la saison dernière. La saison dernière, il y a un accident. Et cet accident, il est aussi dû en grande partie à la qualité de l'ASM. Mmh. Voilà. Et les Parisiens le reconnaissent le premier, sur la scène ou en coulisses. Maintenant, moi, le Paris Saint-Germain de cet après-midi, je le trouve un peu triste. Mais un peu triste, pourquoi?
Parce que, à l'élimination.
Parce que,
tu veux dire.
Mais effectivement, parce que ce projet parisien, c'est un projet qui ne vaut quasiment que sur la scène européenne. Parce que quand tu te mets deux secondes à la place des dirigeants qataris, tu te dis, bon, allez, le championnat, si on fait pas de conneries. Et ils n'en font pas de conneries. Tu l'as dit, je suis d'accord.
Ben voilà.
Ils tapent le dernier 5-0. Bravo. Mm-hmm. Après, il y a la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, pardon, et la Coupe de France. Ils peuvent faire un triplé. Ouais. Quadruplé si tu comptes le trophée des champions.
On va écouter la réaction quand même de Kylian Mbappé qui a marqué, face au FC Metz et qui s'est exprimé justement sur la déception, qui perdure toujours forcément après cette élimination face au Real Madrid.
C'est important de tout de suite renouer avec la victoire. Comme ça, on peut digérer un peu mieux, même si la digestion va être longue, mais on digère un peu mieux en gagnant les matchs.
Maintenant, par rapport à ta question, moi, ce que je retiens, je crois que c'est la première fois, c'est les sifflets.
Alors, tiens, justement.
Contre Unai Emery.
Alors, il y a eu Unai Emery, il y a eu également Angel Di Maria aussi qui a été la cible des sifflets de certains supporters du Paris Saint-Germain. À l'issue du match, Thomas Meunier qui a marqué, qui a joué cette rencontre face au FC Metz, il s'est exprimé justement sur les sifflets. Écoutez ce qu'il dit en rapport à Unai Emery et à Di Maria, justement.
Bon, maintenant le rôle d'un coach c'est de se mettre la terre à dos ou bien de se mettre tout le monde dans la poche. Contre l'entraîneur, je pense que chacun a son avis. Maintenant contre Andrel, je les ai entendus aussi et j'étais un peu déçu de la réaction de certains supporters parce que il a été, je pense, irréprochable jusqu'à présent et je dirais il était pas tout seul sur la pelouse contre le Real et ça a pas été évitant pour l'entièreté du groupe et pas seulement pour lui, donc faut pas jeter la pierre.
Ouais, Thomas Meunier, c'est quand même le mec qui tient le discours le plus clair,
le plus franc,
le plus juste, le plus franc, le plus vrai. Une chose par rapport à Di Maria et les sifflets qu'on a entendus. C'est Unai Emery pour moi qui le met dans cette situation-là. Parce que c'est le joueur qui survole les débats depuis janvier 2018, depuis le début de cette année, au sein du Paris Saint-Germain. Et j'ai trouvé... Alors évidemment, il a raison, Thomas Meunier, un entraîneur doit faire des choix. Et quand tu choisis, tu dois renoncer. Mais je trouvais que la titularisation de Di Maria, pour moi, s'imposait au match aller. Et je pense que un joueur comme Di Maria qui doit beaucoup, contrairement à certains qui sont des blocs de glace, mais c'est pas le cas de Di Maria, je pense que cette non-titularisation, il a pas joué une seule minute, ça l'a foutu en l'air parce qu'il marche à la fête.
Juste pour en revenir.
Et que là, il empathie.
Juste pour en revenir à ce que dit quand même Meunier. Alors peut-être que je suis complètement parano, mais ce qu'il dit est très intéressant justement parce qu'il est franc. Il explique quand même, Emery, il se fait tailler, mais après tout, bon, c'est l'entraîneur, on pense ce qu'on veut. Par contre, Di Maria, je suis pas d'accord. Moi, je l'interprète un peu comme ça. J'ai l'impression peut-être qu'inconsciemment, les joueurs se disent déjà qu'Emery, c'est terminé, là aussi. Finalement, vous pouvez le siffler parce que c'est le coach.
Pas inconsciemment, consciemment.
Oh, bah voilà.
C'est terminé pour Unai Emery.
Ce qui veut dire surtout, là, Meunier, c'est que souvent le coach se fait siffler quand il va bien.
Oui, mais la loi de dire, c'est injuste aussi.
Oui, non, ça non. Oui, mais de l'autre côté, il n'a pas réussi, il a eu ses 2 ans, donc il a dit c'est compréhensible, et le coach est habitué à encaisser ou à avoir la gloire. Mais là, un joueur Di Maria s'est sifflé. Pourquoi? Pourquoi les siffler sur Di Maria? Puisqu'il est bien depuis janvier 2018, tu vas lui en vouloir? Pourquoi? En fait, c'est surtout ça. Alors qu'Emery, à la rigueur, tu peux en vouloir parce que il s'est planté sur l'aller-retour, et c'est ce qui a fait qu'il s'est planté, mais c'est pas lui qui joue. Mais le premier responsable et celui qui fait les choix, c'est lui. Si ça marche, très bien. Si ça marche pas, non.
La question est pourquoi? Eh bien, peut-être que Thomas va y répondre.
Mérite-t-il,
supporter du Paris Saint-Germain, ce n'est pas Thomas Meunier. Mais il nous a appelé au 32-16. Il est supporter du PSG. Salut Thomas.
Salut les gars, comment ça va?
Salut Thomas.
Ça va et toi?
Ça va.
Tu t'en remets ou quoi, là?
Ouais, de toute façon, jusqu'à la fin de saison, là, ça va être de la gestion, comme a dit François.
Mm-hmm. Alors, tu t'attends quoi, toi, à la fin de saison, justement, alors?
Moi, je m'attends à ce qu'il fasse tourner. J'espère qu'il y a des joueurs, par exemple, comme Meunier. Quand on voit le match de Dani Alves sur les deux rencontres de Ligue des Champions, là, j'espère qu'il y a des joueurs qui vont s'affirmer un peu. Mm-hmm. qui vont passer, qui vont se faire violence, qui vont passer outre quelques consignes tactiques ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas ce que leur dit Emery dans le vestiaire, mais j'espère qu'il y a des joueurs qui vont s'affirmer, et ça fait du bien d'entendre Thomas Meunier être franc comme ça. Ça fait du bien, un discours vrai. C'est-à-dire, il cache pas que sous-entend que pour les joueurs, Emery, c'est fini. Bon, il doit être pote avec Di Maria, donc ça le fait chier que Di Maria soit sifflé. Mais comme disait François, c'est Emery qui met Di Maria dans cette position. Et moi, je me rappelle quand Emery est arrivé au PSG, on s'attendait tous à ce que Emery fasse jouer le PSG comme Séville jouait, en 4-2-3-1. Et en fait, moi, ce que je me rends compte, c'est que Emery, c'est du Laurent Blanc fait par un Espagnol, quoi. C'est-à-dire, le schéma a jamais changé. Les circuits préférentiels de passe ont jamais changé.
Au niveau tu veux dire qu'il s'est jamais, il s'est jamais imposé ni dans les choix ni dans le sa façon de jouer, dans ce qu'il voulait.
Ali, même dans la façon de la gestion du groupe, c'est-à-dire
oui,
il y a des plans,
tout
à
fait raison. Oui,
mais d'ailleurs,
Thomas,
Di Maria, il faut le dire, le souligner, ce que c'est
pas
Thomas.
Imposé.
Mais derrière, il est doublement victime. Hein. Et à Séville, parce que vous savez un peu ou pas, mais je travaille depuis 2 ans avec ce club.
Ouais, t'es un barbier.
Voilà, je le fais, c'est ça. Mais les gens qui le connaissent, qui l'ont eu pendant 3 ou 4 ans, en tout cas 3 années où il leur apporte 3 Europa League, ils me l'ont tous concédé. Il n'est pas fait pour gérer ce groupe-là.
Exactement.
C'est vrai, il y a des groupes quand tu viens dans des clubs avec... De toute façon, ce qu'a fait le Paris Saint-Germain, c'est quoi? C'est la politique du Real Madrid il y a 15 ans. Hein. C'est le PSG Galactique.
Ouais.
Donc avec des égos où ils se prennent tous pour des stars, et qui sont en fait des starlettes, il te faut un entraîneur qui pose sa paire de cojones, voilà, on m'aura compris, je l'ai dit en espagnol.
Et qui impose.
Et il se trompe, il a raison, comme l'a dit Meunier, mais qui impose? Il n'a rien imposé, il a toujours été dans la diplomatie.
Il a subi.
Contrairement à Blanc, peut-être beaucoup plus travailleur, mais ça ne lui a rien rapporté dans la relation avec le groupe, avec ce groupe depuis 2 années, et il en paye les conséquences.
Et souviens-toi, François, si je peux me permettre, quand Emery est arrivé, tout le monde disait Emery fera des choix, regardez.
Je l'ai pensé très fort, Thomas.
Il avait mis Banega sur le banc pendant 6 mois avant de le réintégrer à l'équipe.
Exactement.
Ça n'a pas marché dessus. Et au final, il fait exactement pareil. C'est-à-dire, Neymar sort jamais, Mbappé sort jamais. Oh. Alves sort jamais alors qu'il est plus que mauvais sur les deux confrontations. C'est-à-dire, je dis pas que Meunier aurait fait mieux, mais je pense pas qu'il aurait fait pire.
Il
a du mal à faire des choix.
Le problème, c'est que
aujourd'hui.
Non, mais le problème, Thomas, c'est que beaucoup plus qu'il ne fait pas les choix, il transpire la peur d'eux. Que ça soit tactique,
c'est lié, c'est très important.
Que ça soit face au grand club espagnol, il le fait ressentir. Que ça soit, il le fait ressentir. Et que tu veuilles pas, le groupe le ressent. Et la preuve, c'est qu'arrive un moment, quand le groupe n'était pas content, on l'a vu, hein, ne serait-ce qu'avec Verratti, arrive un moment, si t'arrives pas à recadrer Verratti, alors qu'à chaque fois, il te coûte quelque chose, il le fait plusieurs fois pendant le match, il le fait en Champions League, et tu laisses un joueur de ce calibre-là péter les plombs, avoir des cartons jaunes, ou faire être comme s'il était lui tout seul sur le terrain, c'est qu'arrive un moment ou un autre, tu prends pas tes responsabilités en tant que coach par rapport à un équilibre de ton équipe. Et c'est ce qu'il a pas fait.
Ali, je vais te dire, pour moi, Emery, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu parles du bord du terrain, et en fait, ça rejoint un petit peu ce que je disais dans la gestion, c'est-à-dire que psychologiquement, il domine pas son groupe.
Non.
Pas lui le chef. Mmh. Et du coup, ça se ressent sur le bord du terrain, c'est-à-dire que quoi qu'il fasse, il sait qu'il aura pas l'impact qu'il désire avoir.
Et les joueurs le ressentent,
parce qu'il est dépassé. Parce qu'il est dépassé dans sa gestion de son ego confronté aux égos de ce vestiaire. Dépassé, il est incapable objectivement, les amis, objectivement, sans être anti ou pro-PSG, je m'en fous. Qu'est-ce qu'on a vu sur cette quinzaine qui était vraiment le money time du Paris Saint-Germain cette saison, parce que ça se joue sur la scène européenne. On a vu quel message? Un entraîneur pas fichu de galvaniser son effectif, et un directeur sportif qui demande à tout le monde de se focaliser sur l'arbitrage. Ce sont les deux messages.
Moi je dis pas ça comme ça.
La même chose.
À partir du moment où t'as ton direct, alors on en a parlé, c'est intéressant que tu parles de ça. Avec moi qui connais bien Antero, c'est-à-dire je le suis depuis des années, j'ai été très surpris qu'il s'exprime à ce moment-là, parce que le timing était un peu bizarre.
C'était
avant.
Prémédité.
Non mais d'accord, mais le fait que lui en parle. Après le fait que lui en parle, parce qu'il est très rare dans les médias, le fait que lui en parle, c'est justement pour pas que les joueurs aient à en parler. Si tu veux, c'est une stratégie de com qui peut paraître un peu chelou compte tenu du timing, etc.
Mais il y a un autre message.
Mais il demande pas, il dit pas du tout à ses joueurs, les mecs, faut mettre la pression sur l'arbitre. Il le fait lui-même.
Non, c'est lui qui en parle.
Il n'a pas à
le faire. Non, mais je te dis pas qu'il a le faire. C'est ce que je suis en train de te dire.
Le message, tu le fais passer aussi parfois à travers les médias. Je suis bien placé pour le savoir. Le message,
Le problème, c'est qu'arrivé un certain temps, quand la personne ne fait pas ce qu'il faut pour son groupe, pour tactiquement, techniquement et tout ce qu'il faut, eh ben c'est les autres qui se sentent obligés d'intervenir. Le fait qu'Emery laisse un petit peu des appâts et des portes ouvertes, eh ben les joueurs, c'est comme des requins, dès qu'ils sentent
ils
le sang, ils s'engouffrent complètement, ils font ce qu'ils veulent, ils décident ce qu'ils vont, ils s'engueulent sur le terrain, s'ils peuvent laisser tomber, ils laissent tomber, et c'est comme ça.
Mais c'est vrai que les journalistes, vous vous moquez souvent, mais beaucoup en coulisses, et moi il m'est arrivé d'y participer aussi, mais les journalistes, beaucoup du niveau intellectuel des joueurs, les joueurs ils ont un truc pour eux, c'est qu'ils ont un instinct extrêmement sûr des qualités et des faiblesses de ceux qu'ils ont en face d'eux. Mmh. Et quand ils sentent la moindre brèche, instinctivement, ils s'engouffrent dedans et ils le font avec, alors là pour le coup, une intelligence où nous parfois on réfléchit des fois un peu trop. Mm-hmm. Mais alors les joueurs en général, mais ils t'ouvrent la brèche.
Pour le coup, je pense que des cons il y en a partout, hein, des mecs intelligents, et etc.
Mais
on est d'accord, y compris chez les journaleux, les encartés, il y en a pas mal. Vas-y. Mm-hmm. Thomas.
Nico, juste une chose, tu parlais d'Antero qui en gros parle à la presse des arbitres pour pas que les joueurs aient à le faire. Mais si un directeur sportif il est obligé d'allumer des contre-feux comme tu dis, c'est pour masquer quelque chose. Et pour moi, c'est comme, tu sais, toute la com, ensemble, on va le faire, etc. Ça veut dire que c'est pas d'instinct, ça vient pas naturellement de se dire que le PSG va le faire. C'est-à-dire qu'on a besoin de motiver tout le monde, on a besoin d'allumer des contre-feux pour pas que les projecteurs soient braqués sur fait que le groupe était pas bien, de toute façon.
Mais Thomas, tu sais qu'il est le plus gros chantier.
C'est très juste.
Tu sais qu'il est le plus gros chantier d'Antero, justement. Bah, c'est justement de faire en sorte que certains réflexes que lui a connus dans un gros club, alors, toute proportion gardée, qui a gagné la Coupe d'Europe, qui était le FC Porto à l'époque, il va essayer d'adopter, de fait, tu vois, l'interview de Sacchi dans l'équipe hier, elle était très intéressante pour ça. Le fait que l'institution soit au-dessus de tout, que l'équipe doit passer avant tout le reste, ce qui est très paradoxal finalement, c'est que l'une des premières mesures qui a été la sienne, ça a été d'aller chercher une superstar qu'est Neymar, et maintenant l'équipe elle va être construite.
Mais parce qu'Antero Henrique, comme tu le dis Nico, mais on peut le dire autrement, c'est le chef de chantier, c'est pas lui qui paye les travaux.
Non,
celui qui paye les travaux c'est un Qatari, c'est un président délégué.
Ça a jamais été lui qui a payé les travaux.
Mais lui, alors c'est son grand ami qui était au parc mardi soir, mais lui il l'a mis sur pied et une politique de recrutement galactique. On rappelle que le Real, avec cette politique-là, n'a pas gagné une seule Ligue des Champions, ok? Oui. Il a mis sur pied cette politique à Paris, alors que au départ, il y a un binôme Ancelotti-Leonardo. Ouais. Qui commence à marcher. Sauf qu'ils ont voulu voir les choses un peu trop vite.
Après, Galactique, je trouve ça un peu excessif parce que t'as un joueur. Non, mais t'as Mbappé et t'as Neymar.
Certains se considèrent.
Le Real, c'est pas ça. Le Real, c'était des ballons d'or. Là, t'en as pas un seul.
Non, mais comment ils se considèrent à l'échelle.
En même temps, t'en as que deux depuis 10 ans. Vas-y, allez. T'allais dire.
Non, c'est pas du tout ça. Ce que dit François, c'était une bonne chose dans le sens où les débuts du PSG étaient très bons, dans le sens où c'est
très
vrai. Tu avais Leonardo, qui avait un très gros caractère, qui connaît le football, qui était à la fois entraîneur, manager, joueur, ancien joueur.
Et du PSG.
Et en plus d'une intelligence, et en plus, très très charmeur envers
très
tout l'UEFA, toute la FIFA, même les Qataris. Mais par contre, envers les joueurs, il tenait les joueurs. Dès qu'il avait à dire quelque chose, que ce soit Zlatan, Thiago Silva, Thiago Motta, il l'écoutait, il se faisait respecter. Du moment où Leonardo est parti, ça a fait pchit.
Remercie Thomas.
Ouais, non,
vas-y, pour finir, pour conclure, vas-y Thomas.
Tout simple, Leonardo Ancelotti, c'était l'école Galliani et Milan AC, tout simplement. Mmh. Et c'est pour ça que ça marchait. Mmh. Voilà.
Eh ben c'est dit. Merci Thomas. À bientôt mon gars. C'est dommage, j'en ai rien à t'offrir.
Bon.
J'ai un stylo là si tu veux, mais bon, je peux pas te. Non, j'ai rien à te filer mon gars, je suis désolé. On va pas les de ciné des trucs là, Cyprien là. Cyprien. Allez, et tu raccroches pas. Je vais te gratter deux places de Cinoche, mon pote. Tu vas
pouvoir
en
aller.
C'est cool, merci.
Madame ou monsieur.
Il revient nous voir, il revient nous parler du PSG.
Ouais, puis il reviendra, bien sûr. Voilà. Bonne soirée, Thomas.
La
bientôt.
Saison prochaine.
Merci, salut les gars.
On va accueillir Laurent. Alors, Laurent, il est supporter de Nice, mais il est pas d'accord avec toi, François, parce que c'est aussi ça, l'after, c'est aussi ça, RMC. Bonsoir. Salut, Laurent.
Bonsoir, messieurs. Comment allez-vous?
Bah, ça va et toi, Laurent?
Ça va, Laurent.
en pleine forme.
Ah, je vois ça, ouais, ça s'entend, Laurent, là.
Les supporters de l'OGC.
Ouais, je t'avoue que les 15 degrés à Paris aujourd'hui m'ont un peu remonté le moral.
C'est vrai.
Alors, attends, Laurent, toi, t'es supporter de Nice, mais t'as envie de défendre le Paris Saint-Germain.
En fait, oui. Moi, je soutiens les clubs français en Coupe d'Europe. Je suis ravi de Lyon et Marseille d'il y a deux jours, des résultats. J'ai vu, notamment un bon match de Marseille, donc j'étais content. Mais pour Paris, je trouve que, Il faut quand même noter quand il y a des petites choses qui vont bien dans le marasme un petit peu général de ce club. Moi, j'ai été tout à fait réjoui de voir qu'à un moment sur la pelouse aujourd'hui, pour revenir un petit peu au match contre Metz, il y avait 5 joueurs du centre de formation, et notamment Nkoukou qui m'a beaucoup plu. Et il y en avait 5 à un moment, la moitié de l'équipe quand même. Et pour un club qui est pété de thunes, dont on dit que c'est que des stars ou des starlettes, je ne sais pas si dans le top 8 européen, on peut trouver beaucoup de clubs qui peuvent aligner comme ça la moitié de leur équipe qui viennent du centre de formation. Donc moi, ça, je trouve que c'est pas assez dit, et je voulais le souligner. Moi, ça m'a bien plu, et j'ai trouvé que c'était pas si évident pour Paris, malgré le fait que ça soit Metz qui soit 20e. Moi, je suis plutôt d'accord avec Ali. Moi, je trouve que, bon, les 10 premières minutes, on peut concéder que le PSG a un petit peu de mal à se remettre dedans après la leçon de football de mardi, quand même. Donc c'est vrai qu'ils ont pris deux grosses occasions au départ, mais après, j'ai vu un bon match de Paris. J'étais même plutôt surpris de les voir ces jeunes là. Bon, je pense que Paris a quand même, pour ça, il faut le souligner. Voilà.
Deux choses. D'abord, oui. On a tous vu un bon match de Paris, certes, mais on pouvait peut-être avoir quelques doutes, mais finalement, la logique a été respectée. Après, moi, je pense que j'y mettrai pas ma main au feu, mais les Asensio, les Vasquez. Ouais,
t'as le Real, le Barça.
Le Real, ils doivent venir.
Mais d'ailleurs, c'est pour une raison toute simple. Hein. Vous savez que pour inscrire les joueurs en Coupe d'Europe, vous êtes obligé d'avoir des joueurs formés localement et certains formés au club.
Mais il faut les faire jouer.
Très bonne remarque de Nico Villas. Et puis, Nkoukou est le seul joueur, je crois, formé au PSG de l'ère qatari. Alors, il y a Rabiot également.
Rabiot
est rentré.
Qui est rentré aussi.
Kimpembe, ouais. Je pense qu'il a signé son premier contrat pro. Avant que les Qataris débarquent.
D'accord. Okay.
Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que Gakpo est le premier joueur à avoir signé un contrat pro.
Non, mais on parle du PSG, pas des Qataris.
Moi, je parlais du PSG en général.
Ouais. Mais oui, c'est une bonne chose. Mais évidemment, c'est une bonne chose. Et je vais aussi dans le sens de la remarque.
C'était pas le cas depuis 2011.
Tu es obligé de les mettre sur un effectif qualifié pour une Ligue des Champions ou une Europa League. Après, tu ne peux pas asseoir ce projet parisien à cette échelle européenne, avec une majorité de joueurs formés au club.
Mais pas une majorité. Non, je suis d'accord avec, rappelle-moi ton prénom.
Laurent.
Dans le sens où, même si tu assois, même si tu mets sur l'effectif, je veux dire, par des moments dans les grands clubs, pour les faire jouer, c'est dur. Ou alors, tu fais jouer un ou deux joueurs.
S'il faut rappeler que le Paris Saint-Germain a joué la finale de la Youth League, qui est l'équivalent de la Ligue des Champions pour les jeunes,
ouais.
Pas de problème, hein, moi je le rappelle. Hein, ils ont perdu contre Chelsea il y a deux ans.
C'est pas
je crois.
Ça, ils peuvent même
donc
jouer.
C'est
pas parce qu'ils ont des jeunes.
Faire jouer, c'est ça que je veux dire.
Non, c'est pas parce qu'il y a des jeunes et des joueurs qu'ils jouent. Il y a un problème quand même, c'est que les joueurs ne jouent pas. Et moi, je n'arrive pas à comprendre que des fois, on va chercher des joueurs. Je prends l'exemple de Hatem Ben Arfa, hein. Alors que tu pouvais garder un joueur comme qui est parti l'attaquant de Leipzig, comment il s'appelle, qui est parti, qui a signé Salzbourg ou Leipzig, ouais, Leipzig, qui a été vendu 12 millions d'euros.
Oui,
je me rappelle plus son prénom, mais en fait
c'est pas Augustin.
Si, c'est lui, c'est Augustin, exactement, Augustin, tu le vends 12 millions d'euros, au lieu de prendre à la rigueur Hatem Ben Arfa, qui soit dans l'effectif complet, non mais attends, c'est pas ça, je parle pas de ça, tu gardes un Augustin qui ne jouera peut-être pas, mais au moment où t'as des blessés, tu l'as lui, donc quand tu comptes Nkunku qui joue, Rabiot, tu as Areola, Kimpembe qui était pas censé jouer et qui devait se partir, et qui maintenant fait la tournante avec Marquinhos, Thiago Silva, et qu'on se
et
dit
le
même,
petit Wea aussi.
Et voilà, et le petit Wea qui est rentré, et qui est bien rentré, ben ça c'est une bonne chose, et quand t'as la chance de dominer la Ligue 1, au contraire,
tout n'est pas
garde.
À jeter, mais évidemment que tout n'est pas à jeter dans ce projet, mais ce projet s'exprime sur la scène européenne, et sur la scène européenne on est tous dans une logique de dire que tu mets quelques jeunes, et encore tu les comptes sur les doigts d'une main lépreux, mais que tu
n'envoies pas les doigts.
Bah, tu peux pas les envoyer au feu quand tu joues d'un
match de finale
Ligue des Champions.
Merci Laurent.
Hey Nico, je peux juste terminer sur une chose?
Oui. Ah ouais, c'est mieux, ouais.
En fait, j'ai revu le match contre le Real et il y a juste une chose qui m'a vraiment interloqué parce que je pensais qu'il y avait beaucoup. Bon, il y a eu un manque d'envie. Beaucoup ont parlé du manque d'envie, mais j'ai constaté en revoyant le match à quel point ils ont été bouffés physiquement. À chaque fois qu'un Parisien avait le ballon, t'avais 3 maillots blancs sur lui. Ça m'a vraiment étonné, la différence de conditions physiques entre les deux équipes, parce que même si Paris avait eu beaucoup d'envie, d'envie, de toute façon, ils n'auraient pas pu l'exprimer, tellement la supériorité physique me semblait énorme chez le... Ça m'a étonné, ça, je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce le
mais c'est dans la préparation, Fred Hermel, bah oui. Ce qui fait mieux que nous,
bah, tu sais quoi, il nous attend, Fredo, justement.
Dans la préparation.
Merci, Laurent, à bientôt.
Merci, Laurent, ciao, ciao.
Merci, Laurent, bravo, merci. Alors, pour ta bonne humeur.
Le Real Madrid.
Oui, vas-y. Une précision de Paris Sporting sur le hashtag RMC Live. Rabiot est le premier contrat pro signé sur l'air QSI, donc ne dites pas de bêtises.
Ah, mais voilà, pas sûr que.
Ah là 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 là, c'est
juste.
Pas sûr
qu'il
ah
est.
Ah là 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 là.
Si.
Ah là là. Deux.
Pas sûr.
Si, apparemment.
Si, parce que si, moi, quand je suis à Doha et c'est déjà longtemps, il était déjà au Paris Saint-Germain et après il signe.
Messieurs, Fred Hermel nous attend dans quelques instants. On filera en Espagne, on va voir ce qu'a fait le Real Madrid. Tiens, juste vous donner une toute petite info. Vous savez que demain, il y a le match entre Toulouse et Marseille. Florian Thauvin, qui a été touché à la cheville face à l'Athletic Bilbao, est forfait. Voilà, il fera pas partie du groupe. Ouais. Par contre, en revanche, d'ailleurs, on dit pas par contre, Mitroglou est bien là. Il est de retour. Et ça, mon pote, ça fait du bien.
Ah oui, Thauvin contre Mitroglou, c'est bon, Marseille.
L'After revient dans quelques instants avec François Manardo, avec Ali Benarbia et Fred Hermel.
RMC, le super football show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
Et Ali Benarbia et François Manardo et vous, bien entendu, au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. On a refait tous les matchs de Ligue 1 il y a quelques instants. On file maintenant en Espagne, retrouver Fred Hermel. Bonsoir, Fredo.
Hola, chico.
Salut, Fredo.
Comment ça va, mon Fredo?
Ça va. Je commence par une information importante.
Oh, je sens la connerie.
Bah oui, bien sûr. Je vous demande d'écouter le bruit du week-end dans Liga.
C'est des chiottes.
73e minute. Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid, disparaît de la pelouse du match Eibar-Real Madrid. Où est-il? Il revient 5 minutes après. Personne ne comprend. La question est bien entendu posée à Zinedine Zidane en conférence de presse. Bah, il s'est fait caca dessus, a répondu Zidane, avec un espagnol encore un peu plus grossier que ce que je viens de dire. Sacagado, voilà exactement aussi. ce qu'a dit Zizou. Et comme Ramos est vraiment un mec super qui a beaucoup d'humour, il a fait un tweet très rigolo après. Et voilà, donc oui, ça arrive même au plus grand, d'avoir envie de faire caca en plein match.
Mais il est malade ou quoi du coup le mec? Ouais,
Non,
ça peut t'arriver. C'est déjà arrivé toi ça, Ali?
Une grosse envie, la grosse commission, la petite peut-être, mais...
Non,
tu vois, t'as joué combien d'années? 14?
Non, 15. Ça m'est arrivé une fois, un match amical parce qu'il faisait chaud. je t'ai dit un truc, non, tu vas rigoler. Non, constipé avant le match, j'ai pas pu, je suis resté un bon moment avant de rentrer sur le terrain, donc...
Ah, t'es resté bloqué aux toilettes toi, c'est
voilà, comme c'est match amical, il m'a fait rentrer une fois que je suis revenu, quoi.
D'accord.
Par contre,
en Coupe du Monde.
Je voulais dire quelque chose à Fred concernant Asensio. Je te prends.
Alors attends, juste on rappelle quand même le résultat. Le Real Madrid s'est imposé 2-1 à Eibar aujourd'hui avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Vas-y, allez.
Oui, juste pour te dire, j'ai eu la chance de le regarder de très près et de tout ce qu'il a pu faire au parc. En dehors d'être que tu me disais que c'était un joueur talentueux offensivement, ça peut arriver et tu en as des joueurs qui sont talentueux qui plus est au Real Madrid, un jeune. Mais alors. J'ai remarqué une chose, une maturité que très peu de jeunes, même chez les Espagnols ou même Français,
eh oui.
N'ont pas. Et lui, je pense qu'il a cette maturité de grand joueur à son âge.
Et il a Zinedine Zidane, qui est aussi un formateur. Il ne faut pas oublier que Zinedine Zidane a été l'entraîneur formateur, puisque c'est le cas du Castilla en 3e division, avec des gamins qui allaient de 17 à 20 ans. Et donc ça compte aussi. Et bon, on va pas parler du sujet. De toute façon, j'ai décidé de ne plus parler du Paris Saint-Germain, histoire de pas me fâcher.
Non, je parle du Real.
J'ai vu ton entente.
J'ai dit Real. Pourquoi? Parce que dans les choix de Mbappé d'aller à Paris avec un entraîneur qui a pas de pouvoir, enfin qui au Real, peut-être qu'il aurait un peu plus progresser cette saison, quoi, parce qu'avec Asensio.
Est-ce qu'il aurait autant joué? Est-ce qu'il aurait autant joué?
Je peux te dire qu'il aurait beaucoup joué, hein.
Non, mais attends, peut-être qu'il aurait joué, mais si tu as tout le monde et tu as à la fois Vasquez et tu as à la fois Asensio, est-ce que tu penses vraiment que...
Non, mais lui, ce qui lui faisait peur, c'était Bale, Cristiano, Benzema, déjà.
Est-ce que ça aurait pas pu être un scénario à la Nico Anelka? Ça aurait pu.
Non, mais c'est pas du tout le même contexte.
Non. Oula, le contexte de Nico, c'était autre chose. C'était la famille, la famille là où tu rentrais pas.
Je connais le contexte de Nico.
Non, mais vas-y, Nico, parce que j'étais là. Je peux vous dire que le pauvre Anelka, il a pas été bien accueilli dans le vestiaire.
Exactement.
Où il a vécu des trucs.
Certainement.
Vraiment. Non, mais... Et je vais même. Pourtant, Dieu sait si Vicente Del Bosque a eu des problèmes avec lui. Hein. Mm-hmm. Il a même été exclu pendant un mois parce qu'il avait refusé de s'entraîner, etc. Mm-hmm. Et Del Bosque, qui est mon vieux copain, m'a toujours dit, je ne dirai jamais de mal de Nico. Et là, un buen chico. C'était un bon gars. Parce que Del Bosque savait ce que c'était le vestiaire du Real à l'époque.
Ouais,
aujourd'hui,
exactement.
C'est le paradis. Quand t'es un jeune ou t'es un joueur qui vient de l'extérieur. Mais le vestiaire du Real, mais c'est génial.
Il t'accueille top. Cool.
À l'époque, et n'oubliez pas, Anelka était le joueur le plus cher et le mieux payé quand il est arrivé au Real à l'époque. En 99, non, mais, 2000,
mais, et qu'il y avait des Fred, comme je connais Nicolas, ces anecdotes-là, je les connais, et elles viennent de sa bouche. Après, moi, je posais la question par rapport, je faisais peut-être une analogie entre les Asensio, Vasquez, qui sont les Espagnols de la Castille, qui sont dans le vestiaire du Real, mm-hmm. et qui auraient vu débarquer le deuxième transfert le plus cher de l'histoire.
Mais ils auraient pu rien faire, François. Que,
voilà, non, non, c'est une question que je posais.
Mais moi, c'est intéressant ce que tu dis.
Ma question.
Non, François. C'est pour ça qu'il n'est pas venu.
Fred.
C'est parce qu'il a demandé 12 millions nets.
Non, mais.
Et que 12 millions nets, c'était devenir le deuxième le plus gros salaire après Cristiano Ronaldo, donc devant Bale, devant Ramos, etc. Et c'est pour ça que le président a dit non.
Non mais Fred, moi je vais plus loin. Même si le président aurait dit oui, même s'il l'aurait acheté, et même s'ils l'auraient fait jouer, moi j'aurais juste bien aimé voir la concurrence. Quand je vois la maturité d'un joueur comme Asensio et même Vasquez, que j'ai adoré.
Ah, Vasquez est plus vieux, hein.
Je sais, mais
Asensio,
là il aurait pu jouer.
Exceptionnel.
Comparé avec un Mbappé, c'est ce que ça j'aurais bien aimé voir.
Ouais, c'est intéressant, mais je suis vraiment content, Ali, que tu me parles d'Asensio, parce que.
Ah oui, complètement. J'ai eu le temps de regarder.
Peut-être un joueur qui un jour sera ballon d'or. Il a tout pour lui. Mmh. Et surtout, alors, il a une histoire très particulière. Il a perdu sa maman d'un cancer. Sa maman était hollandaise d'ailleurs. Enfin, néerlandaise.
Ah oui?
Il a perdu sa maman à l'âge de 14-15 ans. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui a été vite endurci par la vie, quoi. Donc,
introverti un petit peu, hein, c'est ça?
Ouais,
dans sa façon de jouer,
non, c'est-à-dire qu'il
respecte... dit pas un mot. Il a pas dit un mot sur le terrain. Et il a une maturité impressionnante.
Maturité, ouais. Après, introverti, c'est un bon garçon, etc. Mm-hmm. Mais après, il connaît sa position, il respecte la hiérarchie. Ah, et voilà. Ça aussi, ça compte dans un vestiaire. Très bien. Que qui compte.
Dis, Fredo, au cours de ce match, Varane est sorti sur blessure, touché à l'arcade sourcilière. Comment il va, là, le français?
Ouais, ça va. J'ai eu des nouvelles directement, des proches de Raphaël. C'est un contact, voilà, un coup de tête d'un adversaire au moment où ils se battaient tous les deux pour un ballon dans la surface. Rafa a eu un gros coup juste au-dessus, au niveau de l'arcade sourcilière, droite. Il a un œuf de pigeon, mais un truc de malade. Et il a voulu continuer. Et en fait, il a dit au médecin, mais je vois trouble. Et donc, il a dû sortir au bout de 4-5 minutes. Il a dû sortir. Ce qu'il y a de bien, c'est que les médecins, après la première exploration, ont pu voir qu'il n'y avait pas de danger, qu'il n'était pas obligé d'aller à l'hôpital, rien du tout. Donc, il n'y a pas de problème pour Rafa, quoi. Voilà. Il a simplement il aura un gros cocard demain, il a un gros œuf de pigeon. Mais on aurait pu penser qu'il y avait un traumatisme crânien, hein, parce que c'était d'une violence assez impressionnante et il s'en tire bien. Et vous savez, les ch'tis sont durs, hein, donc ça encaisse les ch'tis. Donc, il y a pas de problème, il pourrait être appelé par Didier Deschamps jeudi et puis pourrait être en équipe de France la semaine prochaine, quoi.
Alors ceux qui sont durs, c'est les leaders, hein, les Barcelonais qui ont gagné 2-0 à Malaga. Voilà, Suarez et Coutinho qui ont marqué.
Et un très bon Ousmane
Dembélé.
Ah, il est de retour.
C'est son premier bon match. En tout cas, c'est la première période parce que en fait, excusez-moi.
Comme il y a eu. Dès que tu parles du Barça, il y a un truc qui se passe. Hein,
c'est fou, hein, c'est l'émotion, mais c'est normal.
On sent la pistache.
Et donc voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Messi n'a pas joué aujourd'hui parce que Messi est devenu papa de son troisième enfant, donc il n'était pas du voyage. Puis il y a un peu un match contre Chelsea mercredi qui fait que bon, c'était pas forcément obligatoire de jouer chez le dernier Malaga. Et donc Messi donc a pu être aux côtés d'Antonella, son épouse, pour l'accouchement. Et ça a permis à Valverde de revenir à un système 4-3-3, de jouer avec Suarez en pointe, avec Coutinho à gauche et Dembélé à droite. Et c'est vrai que surtout en première période, parce que comme Malaga après a été vite réduit à 10 après un attentat sur... je vais pas utiliser ce mot-là, j'aime pas. Après une agression, vraiment un tacle terrible sur Jordi Alba, qui... On se demande comment il a pas la cheville cassée, quoi. C'était énorme. Un rouge tout à fait logique. Pendant cette première période, on a vraiment vu un Dembélé qui n'avait plus peur.
Qui est relâché.
qui était relâché. Et je pense que c'est ce que tu as dû sentir, parce que c'est vrai qu'il s'est blessé au bout de la troisième ou quatrième journée à Rétafé, je me souviens, j'y étais, et qu'il était très tendu, on le voyait souvent très tendu, et là, il était plus détaché, et il a fait une passe décisive magnifique pour Coutinho, qui a mis un but de, non, sur talonnade, non moins magnifique, mais on a senti vraiment, que voilà, c'était un, c'est qu'un match, c'est qu'une bonne première mi-temps à Malaga contre le dernier sans Messi, mais c'est quand même encourageant.
Un petit mot, Fredo, également sur Valence. Alors Valence qui a battu Séville 2-0. Alors Valence qui lâche à Séville, ouais. Valence qui lâche pas le Real, hein, puisqu'ils sont toujours à un point, les Valencians, et surtout qui largue Séville au classement, du coup.
Voilà, c'est-à-dire que c'est quasiment fait. Valence sera de retour en Ligue des Champions la saison prochaine. Vous savez, on oublie trop souvent que c'est une équipe qui a quand même fait deux finales. Hein.
Ouais, d'affilée,
tout à fait, t'as raison.
Exactement.
Avec Rafa, non ? Exactement. Et donc cette équipe de Valence a réussi à mettre des gens, enfin a eu la bonne idée, surtout le propriétaire de Singapour, milliardaire de Singapour, qui s'appelle Peter Lim, qui est pas un grand spécialiste du football. Il avait fait un petit peu n'importe quoi pendant des années. Oui. Et là, à partir du moment où tu prends comme directeur général un vrai mec du football qui s'appelle Matteo Alemany, ancien président de Majorque, que tu mets sur le banc Marcelino Garcia Toral, un vieux routier des bancs espagnols, un mec autoritaire, etc., que tu confies le foot à des gens qui parlent espagnol, qui sont espagnols, que tu mets pas à la tête une de tes cadres de tes boîtes qui parle pas un mot d'espagnol et qui est présent de Valence. Bon, quand tu confies ton club à des gens qui connaissent, bah automatiquement ça va un peu mieux. Voilà. Et là, on a vu un très bon Valence ce soir. Avec un Kondogbia qui s'est blessé à 75e et qui a encore fait un match fabuleux.
Il met deux passes D, hein, d'ailleurs.
La deuxième, elle est à la deuxième.
Double de Rodrigo, d'ailleurs.
La deuxième passe décisive, il élimine 5 adversaires. Et c'est impressionnant. Et il y a une réflexion du commentateur à la télé espagnole qui dit, ah, ben, tiens, c'est un Messi de 2 mètres. Parce que c'est vrai qu'il nous a fait un petit coup à la Messi, sur cette action-là.
La façon de faire les passes.
Ouais, donc Valence, en plus, ils ont, vous savez, il y a des moments, il faut virer les mauvais, hein. Il y avait des têtes dures dans le vestiaire, hein. Il y avait notamment le gardien Diego Alves qui était un empêcheur de tourner en rond et de progresser. Vous savez, des types qui sont des néfastes, des types
négatifs,
de parasites.
Oui, complètement.
Tu vois,
des leaders négatifs.
Voilà.
Celui qui était avec Mourinho pour dégager un petit peu Casillas.
C'est un peu plus compliqué que ça.
Enfin, à propos de Mourinho, Séville va se déplacer à Manchester dans la semaine avec une chance de qualification. Mais cet après-midi,
à quel moment tu te dis, quand tu joues, t'as quand même une chance réelle après un bon 0-0 l'année, parce qu'ils auraient pu gagner.
Ah, et attends, et avec Manchester, on sera avec d'ailleurs Philippe, il nous attend déjà, Philippe Auclair. Mais franchement, Manchester, le match d'aujourd'hui, ils battent Liverpool 2-1, ils font deux matchs en là. Hein. Première période, ils sont bien, deuxième, ils n'existent plus. Hein. Ouais. Ils sont capables de tout, United. Hein.
C'est pour ça. Donc je pense que c'était difficile de penser totalement au match contre Valence quand tu vois que tu peux, que t'as une chance réelle de te qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions.
Pour la première fois de ton histoire, ouais.
Exactement. Oh, c'est bien d'avoir un Sévillan avec nous.
Un peu.
Fredo, merci mon Fred.
Fred Guedes. Oui. Transféré ou pas?
Ils ont besoin de son PG. Hein.
Non, mais c'est pour ça.
Ouais, mais Guedes.
Je suis pas sûr qu'ils ont l'argent.
Il va valoir beaucoup plus d'argent que ce que.
Il y a d'autres clubs espagnols.
Surtout le PSG. Enfin, ouais.
Je crois qu'il y a d'autres clubs espagnols.
Vu comme il est bon là.
Va savoir si
Valence
va venir à
35-40.
Tu verras.
Guedes, vu ce qu'il se propose aujourd'hui sur les marchés, ça paraît pas cher du tout par rapport à un mec qui est l'un des leaders et l'un des meilleurs joueurs de la quatrième équipe de la Liga. Donc Valence va tout faire pour le garder, mais je me demande si le PSG peut pas faire une meilleure opération. D'autant plus qu'il n'y a pas d'option d'achat, rien du tout dans le contrat. C'est un contrat de prêt simple, voilà. Donc il y a même pas de prix défini à l'avance pour un achat de la part de Valence. Donc ça risque d'être compliqué pour Valence de l'acheter parce que le PSG peut faire beaucoup plus de thunes avec ce transfert là.
Fred, à lundi dans les drôles de dames. Merci Fredo.
Merci
beaucoup Fred. Et nous on sera avec Philippe Auclair dans quelques instants. On va revenir sur le Derby of England, le derby anglais entre Manchester United et Liverpool entre autres, et la victoire également de Chelsea face à Crystal Palace. À tout de suite dans la foule.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
Toujours en compagnie d'Ali Benarbia et de François Manardo. Et vous êtes très nombreux. Excellente compagnie.
Te plains pas.
Vous êtes toujours très nombreux sur le hashtag RMC Live. On était en Espagne avec Fred Hermel il y a quelques instants. 30e journée de Première Ligue. Aujourd'hui, elle a débuté par le derby d'Angleterre entre Manchester United et Liverpool. Philippe Auclair a assisté à ce match. Il s'est régalé, Philippe. Good evening, Philippe.
Good evening, Nicolas. Bonsoir.
Salut, Philippe.
Bonsoir, Ali. Bonsoir à tous et à toutes.
Salut. Victoire de Manchester United 2-1 face à Liverpool. Alors United qui fait une belle opération au classement puisqu'ils prennent 5 points d'avance les Reds. Alors on était en train d'en parler, je sais pas si tu nous écoutais il y a quelques instants. J'étais en train de dire, il y a eu deux matchs en un finalement de la part de United.
Oui, il y a eu deux matchs en un, mais je suis pas loin d'être de l'avis de José Mourinho dans la mesure où ils ont un petit peu contrôlé les deux. Alors je sais que ça peut paraître un peu excessif de dire ça. Dans la première mi-temps, on a vu un Manchester United que moi je n'ai jamais vu aussi séduisant cette saison. Franchement, je les ai trouvés franchement très 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 bons, très bien organisés, très incisifs, avec quelques performances individuelles de très haut niveau, dont celle de Romelu Lukaku, qui continue de progresser match après match, qui est en train de vraiment de devenir un super super avançant.
Alors qui a pas marqué, mais qui est impliqué sur les débuts de Rashford. Mais,
oui, ouais. Qui met la misère au pauvre Dejan Lovren, qui était pas vraiment couvert, c'est moins qu'on puisse dire, par Emre Can. Mais bon, ça c'est autre chose. Marcus Rashford également, qui n'a que 19 ans, mais qui est un joueur qui semble s'épanouir, je dirais, dans ce type de match de haut niveau et de match qui compte vraiment. Ce qui est un très bon signe pour sa carrière. Et non, j'ai trouvé un très très bon Manchester United. Et c'est vrai qu'en deuxième période, c'est, comme tu le dis, ils ont souffert. Ils ont pas vu le ballon, très peu. Mais par contre, c'est une question que je te pose et que je vous pose. Vous souvenez-vous, d'un seul arrêt que David De Gea a eu à faire?
Non. Ce qui est rare d'ailleurs, parce qu'il est tellement sollicité ces derniers temps.
Non, c'est t'as raison. Philippe, la différence, c'est que au niveau agressivité, les Mancuniens, ils l'ont été au-dessus. Pour voir un Ashley Young qui a fait Valencia de l'autre côté. Pareil, les deux, ils ont été énormes. Et là, ils ont pris le dessus sur les... j'ai bien vu, Mohamed Salah, il n'a pas pu passer une fois.
C'est rare, c'est peut-être le premier match qui rate vraiment.
Mais il s'est fait bouffer physiquement.
Bah, il a eu beaucoup de mal.
Même Smalling, il a pas lâché une fois.
Après, Smalling, il a pas été fou, les gars, entre nous. Et moi, il y a un truc, on en a déjà parlé. Non, mais attends, il a toujours un train de retard. Moi, je comprends pas les défenseurs, à part Bailly, alors qui est pour le coup marqué.
Mais là, il était pas bien.
Non, il a pas été mauvais,
Ouais, mais il était blessé,
moi,
on est
blessure. La charnière de United, les centraux,
ça fait un moment. Mais Smalling, dans les duels, aujourd'hui, Smalling, Ashley Young et Valencia, dans les duels, ils ont été énormes.
Philippe.
Je suis d'accord avec Ali. En plus de ça, ça a aidé d'avoir devant, en tout cas en première période, Matic et McTominay, ça marchait très 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 bien.
McTominay a fait un bon match.
Oui, mais c'est lui aussi une révélation.
Ah, complètement.
Et c'était un match. J'ai trouvé ce Manchester United très épanoui, très beaucoup de cohésion. Je continue de penser que Juan Mata, quand il est sur le terrain, apporte énormément à cette équipe.
Son intelligence de jeu.
Oui, les placements, il crée de l'espace.
Entre les lignes.
Il crée de l'espace pour les autres joueurs. Il est tout le temps à chercher le petit appel qui va faire mal.
C'est le cerveau.
Et je ne serais pas surpris du tout d'ailleurs qu'il joue contre Séville dans un match qui est absolument crucial, énorme pour Manchester United. Mais... Et la question, bien évidemment, que tout le monde se pose et qu'on n'a pas encore posée, c'est que va-t-il se passer pour Pogba et Martial?
Alors, j'allais y venir, justement. Oui. Paul Pogba, alors c'était une petite surprise. Il s'est blessé hier à l'entraînement. Il était incertain. Il a pas joué. Alors, il y a une image que d'ailleurs vous pouvez voir sur BFM Sport. À la fin du match, après cette victoire de 1, il est allé taper dans la main de José Mourinho.
Pendant son interview avec la BBC, absolument.
Exactement. Ça avait l'air plutôt sincère comme geste, Philippe.
Oui, et le sourire de Mourinho n'était pas du tout forcé. Je pense pas que ça soit. Je pense très honnêtement qu'on a exagéré toute cette affaire entre Pogba et Mourinho. Il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qui se passent bien évidemment, mais pour ce qui est de la relation entre les deux hommes, je pense pas que ça soit une relation qui soit finie. Par contre, quand tu vois, alors également l'autre chose, c'est que on dit en anglais horses for courses. Donc tu t'adaptes à ton adversaire. Dans le cas de Liverpool. D'une certaine manière, et comme le disait d'ailleurs Frank Lampard il y a quelques minutes sur la BBC, l'absence de Pogba a facilité les tâches de Mourinho. Ça lui a permis de de mettre en place un 4-4-1-1, un 4-4-2, comme vous voudrez, avec Sanchez en soutien de Lukaku, qui était parfait pour contrer une équipe comme Liverpool. Par contre, contre Séville, c'est un scénario complètement différent. Il va falloir être plus proactif, il faut gagner, il faut marquer, et il faut pas encaisser non plus. Donc c'est un schéma de jeu un petit peu différent, où tu pourrais penser qu'un joueur comme Paul Pogba, qui est pas un créateur à la Mata, mais qui est un catalyseur, un joueur qui fait se passer des choses, s'il est dans un état physique correct, c'est pas gagné, tu peux imaginer qu'il soit de nouveau utilisé. Par contre, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que tu as diverses solutions pour Mourinho et pour Manchester United. Et que dans un gros match comme celui-là, parce que c'était un match énorme, puisque tu as la deuxième place qui est en jeu, c'est aussi, comme tu le disais très justement, Nico, et je t'en remercie, le derby d'Angleterre, de la même façon que tu as le derby d'Italie, c'est le match le plus important du calendrier, et c'est un vrai derby,
c'est le match le plus important. C'est le nom qu'on lui donne, hein, ce match, hein.
Derby de la Mercy. The derby.
The derby.
Par contre, dis-moi, Philippe, Sanchez, il a du mal encore à rentrer.
Il a marqué qu'un but, hein, depuis qu'il a eu
le championnat.
Ouais, il se cherche beaucoup. Il peut ne pas marquer et être influent, mais il n'a pas été très influent dans le jeu. Il continue de perdre beaucoup de ballons. Il est très brouillon. Il n'a pas encore trouvé sa place, pas son équilibre. Mourinho a dit que ça viendrait la saison prochaine, qu'il fallait plus de temps. C'est pas impossible si jamais avec un entraîneur comme Mourinho, où il y a tellement de choses qui sont basées sur justement la discipline, en particulier l'organisation de l'équipe. Est-ce qu'il n'y a pas une des choses que Sanchez ou Alexis, plutôt pour l'appeler par son vrai nom, soit vraiment spécialiste. Mais il n'a pas été fantastique. Il n'a pas été fantastique, c'est moins qu'on puisse dire. Cela dit, bon, lui aussi fait partie de ces joueurs qui, sur un coup de, je dirais pas de génie, mais un coup de talent, une fulgurance, peuvent te faire gagner un match.
Ouais, donc, puis Mourinho l'a dit avant le match, il est en phase d'apprentissage. Oui. Juste très vite, il reste 3 minutes, Philippe. Il y a deux choses, j'aimerais vraiment que tu nous parles. Donc la victoire de Chelsea face à Palace, et on va y revenir également, l'envahissement de terrain lors du match entre West Ham et Burnley. Alors c'est tellement rare en Angleterre, mais un mot quand même sur Chelsea avant qu'il s'impose 2-1 face à Palace. Elle est importante, cette victoire. Hein. Elle est importante.
Oui, mais dans la douleur, je peux te garantir, j'ai parlé avec Roy Hodgson après la rencontre. Il était triste, parce qu'en effet, Crystal Palace a été pas loin du tout de jouer un sale coup à Chelsea. Et en jouant. Chelsea, encore une fois, deux mi-temps très contrastés. Première mi-temps, bien contrôlé, face à un adversaire qui était un petit peu trop apathique, à mon sens. Et la seconde, par contre, ils ont souffert. Ils sont pas dans un super état. Tu parles de West Ham, je sais qu'on a très peu de temps. Je voudrais également relever la victoire de Leicester City avec un Riyad Mahrez somptueux. Mais je dis bien somptueux. Et Leicester, le Leicester de Claude Puel, qui mine de rien, va terminer 7e ou 8e du championnat d'Angleterre après avoir été relégable quand il est arrivé. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
Et Southampton, qui l'a viré salement la saison dernière, va peut-être être relégué cette saison.
Tel que c'est barré, oui. Parce que les matchs qu'ils ont, c'est pourri. Le calendrier est complètement pourri. Il y a d'autres clubs qui ont des problèmes, dont West Brom qui a de nouveau perdu, mais ça c'est même plus.
Ils y sont là, ça y est, ils ont un pied.
Non, on n'en parle même plus. Ouais. C'est même pas problème. Et puis bon, West Ham, il faut en parler. On en reparlera ce lundi dans le Grand After, bien évidemment. Défaite 3-0 face à Burnley, mais surtout ces images qui ont choqué l'Angleterre. 4 fois des supporters. Alors je ne parle pas d'une invasion de terrain comme ce qu'on a vu par exemple à Lille. Ouais. Je parle de 3 ou 4 allumés d'agiter du bocal qui sont entrés sur le terrain, dont l'un qui avait un poteau de corner, ce qui est quand même hyper dangereux quand tu penses ce qu'il peut faire. 4 fois c'est intervenu. West Ham va en prendre pour son grade. Les supporters vont bien évidemment être tous interdits de stade à vie, ça fait absolument aucun doute. Mais West Ham, qui était une équipe qui on pensait qu'ils avaient repris un petit peu des couleurs avec l'arrivée de David Moyes, tout compte fait, non. Ils sont pas encore relégables, mais fais-moi confiance, ils le seront bientôt.
Ouais, alors ça a vraiment choqué ces images. C'est vrai qu'en première ligue, c'est rare. On sait que dans les divisions inférieures,
on voit jamais ça. On voit jamais ça. Dans les divisions inférieures, quand ça arrive, d'ailleurs, c'est même en première page. Là, je peux te garantir que ça sera en première page de tous les journaux demain. Mais West Ham a des problèmes qui sont dus à son mode de direction. Qui sont dus à des décisions qui ont
été. Ils sont très contestés, les deux proprios, les Dildo Brothers. Parce que comme ça, on est sur l'homme. Non, mais ils ont fait fortune dans le porno. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les supporters
d'Amers. Non, pas du tout. Tu as absolument raison. C'est comme ça qu'on les surnomme. Sans oublier le troisième membre du directoire.
Si troisième membre.
Oui, absolument. Tu m'excuseras, Nicolas. Bravo, moi, je n'ai pas pu y résister. Tu me connais. Tu connais trop bien. Nous nous connaîtrons. Oh my God, Michel. Et donc, le troisième membre du directoire, qui est en fait une femme, Karen Brady, ce qui complique encore l'équation. Oui, bon, bref, on va arrêter là parce que sinon.
Voilà, c'est fini. De toute façon, on va avoir des problèmes. Ça va mal finir. Merci beaucoup, Philippe.
Qui est l'actrice
première. Merci à lundi dans les drôles de dames également.
Moi, j'ai rien dit.
Merci,
Nicolas.
Qui est l'actrice première.
Je vais dormir, Philippe.
Je vais rigoler. Dildo Covers, machin.
Mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais franchement, t'es un vrai gamin.
Non, c'est pas du tout Nico.
Bah voilà. Merci, Philippe.
Exactement. C'est une phrase qui est passée dans le langage commun.
Merci beaucoup, Philippe.
On en reparlera.
Oui, voilà. On fera des trucs sympas et tout. Merci beaucoup, François Malardo, d'avoir été avec nous.
Merci.
Ciao, Philippe. Merci. Merci, Ali Benarbia.
Merci.
Merci à tous et à tous. On remercie bien entendu toutes les équipes éditoriales et techniques qui nous ont aidé à préparer cette émission.
Un message quand même, une pensée pour Thomas Rodriguez, le jeune joueur tourangeau qui nous a quitté de manière brutale. On part un jour, mais là vraiment beaucoup.
Et d'ailleurs, et aussi à Dag, voilà Daguillon, l'un des kinés du FC Nantes, très bel hommage qui a été rendu d'ailleurs aujourd'hui à la Beaujoire par tous les Nantais. Mmh. Donc voilà, on a une pensée pour tous leurs proches et leur famille. Dès que c'est des trucs émotifs, moi j'aime pas. Bon bref, on se dit à demain. Merci encore. À demain. Ciao.
Bonne soirée.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.